Vous écoutez, on lit pour vous.
Inquiétude quant aux répercussions des paris en ligne sur les jeunes. Un texte d'Axel Dansereau-Massias, paru le 4 août 2025 dans Le Devoir. La dépendance aux jeux de hasard fait de jeunes victimes. Pour la première fois, la maison Jean Lapointe est venue en aide cette année à des adolescents aux prises avec des problèmes de dépendance aux jeux. Je n'ai eu que 2 suivis cette année, mais le problème est plus intense que ce que l'on croit et il va empirer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés, affirme Xavier Lalonde, un ancien intervenant aujourd'hui responsable de la formation et du développement régional au Centre de traitement des dépendances basé à Montréal. Félix, 17 ans, n'a pas demandé d'aide, mais il fait partie de ceux qui se sont laissés prendre par le jeu. Quand j'ai misé 350 $, ça m'a pris une couple de jours avant de réaliser que je les avais perdus, confie le jeune, tout juste sorti du secondaire, qui a demandé l'anonymat pour que son témoignage ne le suive pas dans sa vie d'adulte. Ce qui avait commencé par des soirées entre amis s'est transformé en rencontre presque toutes les semaines pour parier en ligne. La première fois, on a tourné 80 $ en 1 200 $. Je savais qu'on avait été chanceux, mais c'était vraiment le fun, raconte-t-il. Alors âgé de 16 ans, Félix jouait avec des amis majeurs et a fini par créer son propre compte sur un site de jeu en ligne illégal au Canada en utilisant la carte d'identité de son frère. Bien que conscient des risques, l'adolescent a perdu le contrôle lors d'une soirée arrosée. Tu n'as pas l'impression de jouer avec de l'argent, c'est trop facile, c'est comme faire un virement à ton chum pour un repas. Cette soirée a été le point de bascule pour Félix, qui a dû ensuite faire face à ses parents, qui avaient remarqué les transactions passées sur son compte bancaire. J'ai rejoué 2-3 fois, puis j'ai arrêté. Il y a un risque d'addiction, c'est vraiment ça le problème. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, selon Félix, qui a vu des jeunes parier en ligne pendant qu'ils étaient en classe. Celui-ci se considère comme chanceux de ne pas avoir perdu de plus grosses sommes comparativement à certains camarades. « Il y a des gars à mon école pour qui c'est vraiment un problème grave », ajoute-t-il. Une dépendance même chez des jeunes. Un jeune que j'ai suivi a perdu 6 000 $ dans un été. Pour un jeune de 16 ans, c'est tout son argent, raconte Xavier Lalonde. La situation est inquiétante, selon l'ancien intervenant, qui faisait jusqu'à tout récemment de la sensibilisation dans les écoles secondaires québécoises. Il ne compte même plus les discussions de corridor qu'il a eues avec des élèves qui jouent ou qui parient sur des sites sportifs. La tactique des sites illégaux pour appâter les gens est commune, selon M. Lalonde. Un gain important suivi d'un gel de l'argent gagné. Le jeune gagne 1 000 $ et, quand il arrive pour retirer cette somme-là, il y a des délais de fou. Impatient, le jeune continue à jouer, perd ses gains et tente indéfiniment de regagner cet argent. L'ancien intervenant ne cache pas non plus avoir reçu des appels de plusieurs écoles qui voient les casinos en ligne s'immiscer dans les cafétérias, dans les classes et dans les casiers. Et la situation ne touche pas seulement les jeunes du 5e secondaire. M. Lalonde dit avoir vu des jeunes de 12-13 ans qui jouaient à une loterie avec de l'argent réel. Joueurs influenceurs. Imaginez une poule pixelisée qui traverse une route. Chaque pas qu'elle fait double l'argent que vous avez misé et votre personnalité publique préférée pousse des cris de joie devant l'argent gagné. Voici un exemple de vidéo parmi tant d'autres qui promeut des jeux à l'allure inoffensive grâce à différents influenceurs sur les réseaux sociaux. Les incitatifs aux jeux pullulent sur les réseaux sociaux. Voici l'histoire de comment je suis devenu millionnaire. Si tu ne veux pas travailler, joue au Chicken Game à la place. La plateforme Stake a changé ma vie, pas juste temporairement, mais pour toujours. et la liste est longue. Les invitations à jouer à des jeux de hasard prennent plusieurs formes pour attirer les jeunes. Des comptes TikTok sont entièrement consacrés à la promotion de ces influenceurs jouant à différents jeux de hasard et des pages Facebook publient des jeux du type « Trouvez les différences » dans un dessin enfantin pour ensuite renvoyer à un site de jeux de hasard. Des plateformes et des applications mobiles permettent également aux jeunes de jouer de façon fictive avec une somme donnée. Cette ludification du jeu, promue et accessible au bout des doigts, inquiète David Galipeau, intervenant et adjoint à la coordination pour l'organisme de prévention « Jeux » aide et références. Les jeunes de moins de 19 ans sont à l'origine d'une infime partie des demandes d'aide qu'il a reçues, mais plus de la moitié de ceux-ci sont en crise lors des appels, indique l'intervenant. M. Galipeau affirme qu'il s'agit de cas plus fréquents depuis la pandémie et qui comportent de réels dangers pour les jeunes. Quand on parle de crise, ça peut aller de la crise psychosociale, des pleurs, de la détresse, à la crise plus suicidaire, explique-t-il. Le bilan 2024-2025 de l'organisme indique que plus de 200 appels de jeunes de moins de 19 ans ont été reçus. Un problème invisible. Contrairement à l'alcool et à la drogue, la dépendance aux jeux passe inaperçue. Ce danger, généralement associés aux adultes, devraient devenir une préoccupation pour les parents, explique Maude Bonenfant, titulaire de la chaire de recherche du Canada en jeux, technologie et société. Je trouve qu'on n'outille pas les jeunes. C'est démontré par la science que l'exposition à des jeux de hasard et d'argent à un âge mineur multiplie les risques de développer une dépendance à l'âge adulte, souligne-t-elle. On le sait. Quand on est jeune, on a moins de capacité d'autorégulation. Ça se peut qu'on s'engage dans des comportements de jeu d'une manière plus risquée et impulsive, ajoute la professeure à l'Université du Québec à Montréal. Du côté de la recherche, ce sont l'exposition constante aux jeux d'argent et l'arrivée rapide de la numérisation des jeux qui inquiètent. Surtout, lorsqu'il est possible de jouer n'importe quand et sans sortir de la maison, résume Maude Bonenfant. La professeure est aussi frappée par les jeux mobiles pour les enfants de 3 ans qui les habituent à des mécaniques de jeux de hasard. « On voit beaucoup de roues de fortune », cite-t-elle comme exemple. C'est une intégration insidieuse qui amplifie un problème encore plus large, la normalisation et la banalisation des jeux de hasard et d'argent au Québec. Publicité ciblée. Au Québec, les seuls sites de jeux ou de paris légaux sont ceux gérés par l'Auto-Québec. Les autres sont généralement hébergés à l'étranger et ne sont donc encadrés par aucune loi canadienne. Pour promouvoir leurs casinos en ligne, des sites comme Bet99 font la publicité d'une page web de jeux gratuits pouvant ensuite renvoyer à des casinos en ligne. Outre les sites illégaux, il faut aussi repenser la place donnée aux publicités de l'Auto-Québec. Selon Annie-Claude Savard, chercheuse à l'Institut universitaire sur les dépendances et professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, bien que le Code de déontologie de la société d'État lui interdise de cibler des mineurs, l'experte estime qu'il manque d'encadrement. Il n'y a personne pour surveiller les pratiques publicitaires de la société d'État. C'est vrai qu'ils ne doivent pas interpeller des mineurs, mais qui s'occupe de surveiller ça? Sur la question de la publicité, la professeure est catégorique, quel que soit l'âge. Il ne devrait pas y avoir de publicité pour les jeux de hasard et d'argent. Ça ne sert pas le bien commun, c'est absolument inutile. La Société d'État a décliné la demande d'entrevue du Devoir. Par courriel, elle insiste sur le fait qu'elle s'adresse uniquement à un public adulte. En promouvant ses propres jeux en ligne, l'Auto-Québec dit mener une bataille contre les sites non gouvernementaux, donc non réglementés. Dans le contexte où il y a une abondance de sites illégaux, l'Auto-Québec doit prendre sa place et faire connaître son offre à la population, précise-t-elle dans son courriel. Or, pour Andréane Légaré, psychologue et professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, il s'agit d'un argument un peu fallacieux. Elle décrit le double discours de l'Auto-Québec, qui veut contrer les sites illégaux, mais offrir un produit attrayant au grand public. Avec des casinos maintenant accessibles n'importe où et n'importe quand, la psychologue craint que la situation se détériore si aucune nouvelle réflexion n'est faite sur notre rapport au jeu. On va se retrouver avec une augmentation des problèmes de jeu parce que la participation aux jeux en ligne explose, déplore-t-elle. C'était « Inquiétude quant aux répercussions des paris en ligne sur les jeunes », un texte d'Axel Dansereau-Massias, paru le 4 août 2025 dans Le Devoir.
Le paradis estival perdu ou quand les changements climatiques redessinent l'été européen. Un texte de Jason Horowitz, paru le 21 juillet 2025 dans Le Devoir. Il n'y a pas si longtemps, les familles qui venaient à la plage de Montgat, en Espagne, juste à côté de Barcelone, construisaient des châteaux de sable, jouaient au padel et se prélassaient sur la large bande de sable qui était l'image même des vacances d'été en Europe. Mais aujourd'hui, à certains endroits, il n'y a presque plus assez de place pour poser une serviette. D'ici à là-bas, dit Sophia Mella, 19 ans, en pointant du doigt vers la mer, il n'y avait que du sable. Les changements climatiques sont en train de transformer l'Europe en un paradis estival perdu. En Espagne, en Italie, en Grèce, en France et au-delà, les tempêtes qui dévorent le sable, la montée des eaux, les températures étouffantes, les inondations meurtrières et les incendies de forêts effroyables ont, au fil des années, transformé certaines des destinations les plus prisées du continent en lieux misérables où il vaut mieux ne pas s'aventurer. Alors que les Européens du Sud rêvent de fjords, les destinations traditionnelles et incontournables des voyages organisés ne semblent plus aussi attrayantes. La semaine dernière, malgré une baisse des températures sur une grande partie du continent, les experts et les responsables ont averti que la prochaine vague de chaleur arriverait bientôt, mettant en danger les populations locales vulnérables et amenant les touristes à s'interroger sur ce dans quoi ils s'étaient embarqués. Même les militants qui cherchent à libérer leur ville du fléau du surtourisme ne voyaient aucune lueur d'espoir dans ces conditions brutales. « C'est l'enfer », a déclaré Daniel Pardo Rivacoba, qui vit à Barcelone et s'exprime au nom d'un groupe luttant contre le tourisme de masse qui alimente les changements climatiques. Il ne voyait pas le soleil brûlant comme un allié pour éloigner les touristes, mais comme un ennemi commun qui finirait par les faire fondre, lui comme eux. En 2024, le groupe de Daniel Pardo Rivacoba est devenu viral en organisant des manifestations contre le surtourisme, au cours desquelles il aspergeait les touristes avec des pistolets à eau. « Cette année, a-t-il déclaré, il faisait si chaud qu'on a utilisé les pistolets à eau sur nous-mêmes. » Sur tout le continent européen, juin a été le mois le plus cruel, jusqu'à présent. À Rome, les touristes tournaient en rond dans les sites touristiques de la ville comme s'ils étaient dans un micro-ondes à ciel ouvert. À Vérone, des chanteurs d'opéra se sont évanouis dans leurs costumes. Mais l'Espagne est devenue la destination la moins agréable au soleil. les températures dans la ville du sud-ouest d'El Granado ont atteint près de 46 degrés centigrades, un record national pour le mois de juin. Et d'autres chiffres sont tout aussi alarmants. En 2024, les inondations à Valence ont fait plus de 200 morts. En 2025, selon les experts, les décès supplémentaires, en particulier parmi les personnes âgées et malades, ont fortement augmenté avec les températures. Les changements climatiques transforment également le paysage espagnol, notamment la plage de Montgut, où des tempêtes de plus en plus fréquentes ont emporté une grande partie du sable. Chaque fois que nous venons, il y a de moins en moins de sable, a déclaré Susana Martinez, 40 ans, qui fréquente la plage de Montgut avec sa famille depuis 10 ans. Barcelone, à quelques kilomètres seulement, a déclaré avoir perdu 30 000 mètres carrés de sable au cours des 5 dernières années. Marina d'Or, près de Valence, plus au sud, était considérée par les promoteurs immobiliers et les familles de toute l'Espagne comme une station balnéaire emblématique des vacances à la plage dans le pays. Aujourd'hui, les tempêtes ont également emporté certaines de ces plages. Les experts estiment à plusieurs centaines de milliers de mètres carrés la perte de plages dans tout le pays et mettent en garde contre la désertification. Solution. L'Espagne est consciente du problème. À l'heure où l'opposition de droite s'oppose aux réglementations environnementales du Pacte vert européen, un mouvement qualifié de « Greenlash », le gouvernement progressiste espagnol a embrassé la transition écologique. Le principal risque auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui est sans aucun doute le changement climatique, a déclaré Sira Larrego, ministre dans le gouvernement dirigé par Pedro Sánchez. Elle a qualifié la réponse à ces changements de « priorité en matière de sécurité pour le pays ». Fier de la bonne santé de son économie, le gouvernement s'efforce d'attirer des centaines de milliards d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables afin de créer des centaines de milliers d'emplois verts. Il souhaite investir dans des systèmes de prévision des températures afin d'anticiper les vagues de chaleur et former des professionnels de la santé qui seront amenés à traiter davantage de maladies liées à la chaleur. Il s'efforce également d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. À un niveau plus local, des villes comme Barcelone tentent également d'atténuer les dommages causés par les changements climatiques. Laia Bonet, première adjointe au maire et chargée de l'écologie et de l'urbanisme, a déclaré que Barcelone était particulièrement exposée aux effets du changement climatique et qu'elle s'efforçait de faire face à la réalité d'une ville plus chaude avec une élévation du niveau de la mer et une érosion des plages. Selon elle, la priorité de la ville est de protéger les habitants vulnérables grâce à des centaines d'abris climatiques. Mais elle investit également 1,8 milliard d'euros, environ 2,9 milliards de dollars canadiens, pour rendre les bâtiments plus écologiques, agrandir les espaces verts, installer 200 structures ombragées et remplacer certains trottoirs par de la terre afin de mieux absorber et réutiliser l'eau de pluie. La ville utilise également le sable récupéré sur les chantiers de construction pour aider à préserver ses plages, qui sont non seulement un espace public très apprécié des habitants pour se rafraîchir, mais aussi une protection contre les tempêtes et un élément essentiel de l'identité de la ville en tant que destination touristique. Environ 15% de l'économie de Barcelone provient du tourisme. Laia Bonet croit que les changements climatiques ont contraint la ville à repenser son problème de surtourisme et à mettre en place des mesures pour y remédier. Il s'agit de politiques progressistes que les villes peuvent mettre en œuvre comme antidote, a-t-elle déclaré. À Séville, ville du sud de l'Espagne, parfois surnommée la poêle à frire de l'Europe, les religieuses ont depuis longtemps suspendu des rideaux blancs autour de leurs cloîtres pour se protéger du soleil. Mais la ville a récemment commencé à recouvrir ses rues étroites de draps blancs tendus au-dessus des toits comme des auvents. Certaines parties de la ville utilisent un ancien système de conduits souterrains pour acheminer l'air frais vers la surface, tandis qu'un autre projet pompe les eaux de ruissellement vers des espaces publics ombragés, souvent rafraîchis par de la brume. La ville a commencé à donner des noms aux vagues de chaleur afin de les rendre plus tangibles et mémorables. Selon les experts, cela est important car une fois les vagues de chaleur passées, les gens ont tendance à les oublier. Ces derniers jours, les scientifiques se sont donc empressés de faire savoir que la vague de chaleur pourrait avoir triplé le nombre de décès dans les régions touchées à travers le continent. L'objectif, selon l'un des scientifiques, est d'attirer l'attention sur les dangers de la chaleur extrême lorsque les gens souffrent de la chaleur. Fuite. Au lieu de modifier leur comportement, de nombreux Européens du Sud qui souffrent de la chaleur étouffante ont décidé de fuir. À Barcelone, trois femmes âgées assises à l'ombre en face de la cathédrale de la ville rêvaient de la Galice nuageuse du Nord. Et les Romains, qui ont les moyens de voyager, se tournent avec envie vers des pays humides, frais et souvent méconnus. Il se pourrait que si la chaleur devient trop intense, les gens viennent en Belgique, a déclaré Anne Verdonck, 45 ans, originaire de la région d'Anvers, qui était en vacances avec sa famille à Barcelone, où elle a déclaré que les températures de juillet 2025 étaient insupportables. Et alors, nous aurons trop de monde. Mais le militant Pardo Rivacoba estime que la chaleur extrême ne mettra pas fin au surtourisme, car l'industrie touristique est trop cynique. Si les étés devenaient trop chauds, il craint que l'industrie ne s'efforce de déplacer les vacances scolaires vers des mois où les familles peuvent voyager. L'industrie touristique, dit-il, est prête à brûler littéralement chaque page du calendrier. Pourtant, certains habitants considèrent que la chaleur leur offre un répit face à la foule étouffante de touristes. S'il fait aussi chaud, au moins je pourrai me promener près de la Sagrada Familia, a déclaré Mercedes López, 67 ans, originaire de Barcelone, qui vit près du célèbre monument conçu par Antoni Gaudí, réputé pour être toujours bondé. Mais elle a ajouté qu'une industrie touristique décimée ne ferait qu'aggraver la misère économique. Et avec cette chaleur extrême, les habitants chercheraient eux aussi à partir. Si cette chaleur continue, nous devrons déménager en Norvège ou en Finlande, a-t-elle déclaré. Son ami Consol Serra, 74 ans, ne trouvait pas cette solution viable. Si nous devons supporter cette chaleur maintenant, elle finira par les atteindre aussi, a-t-elle déclaré. C'était le paradis estival perdu ou quand les changements climatiques redessinent l'été européen, un texte de Jason Horowitz, paru le 21 juillet 2025 dans Le Devoir.
Un débat toxique, un texte de Paul Journet, paru le 8 août 2025 dans La Presse. En 1951, c'était, croyait-on, une grande innovation. Joseph B. Friedman brevetait sa paille flexible en plastique. Il est vrai que l'humanité tout entière avait, au préalable, survécu à la déshydratation. Reste que, même s'il était possible auparavant de boire, le petit tube cylindrique rendait l'expérience plus agréable, croyait M. Friedman, ou du moins plus profitable pour lui. Le problème, c'est que des millions d'exemplaires de cette invention souille depuis les plages et les autres milieux naturels. Bien sûr, la paille n'est qu'une des nombreuses sources de la pollution causée par le plastique. Le Canada en génère chaque année plus de 3 millions de tonnes en déchets et plus de 43 000 tonnes se retrouvent dans l'environnement. Et ensuite, en petites doses, dans nos corps. Des traces non négligeables de microplastiques ont été trouvées dans le sang, le lait maternel, les testicules, le foie, les reins, les poumons et le cerveau, rapportait la presse en 2024. On pourrait croire que personne ne souhaite accueillir ces déchets dans ses entrailles, mais la politique a toujours le don de surprendre. En 2019, Donald Trump érigeait la paille en symbole de la liberté. Il en vendait des exemplaires à son effigie pour financer sa campagne. Le message : je ne m'immiscerai pas dans vos choix de consommation. Avec moi, vous serez libre de polluer et les sociétés pétrochimiques resteront tout aussi libres de s'enrichir en dompant leurs déchets dans la nature. Comme souvent, ce vent américain a soufflé vers le nord. En 2024, le député conservateur Cory Tucker a déposé un projet de loi pour rétablir la grandeur du plastique. Petit retour en arrière. Le gouvernement Trudeau avait modifié la loi de la protection de l'environnement pour ajouter le plastique aux substances toxiques. Il a ensuite annoncé plusieurs mesures dans l'espoir de ne plus émettre de déchets plastiques à partir de 2030. Des contenants en plastique à usage unique ont été interdits, comme les sacs d'épicerie, les ustensiles, les anneaux pour emballage de boissons et les bâtonnets à mélanger. Et puis, la tempête se leva. Elle aide à comprendre pourquoi le Canada peine à protéger ses écosystèmes et pourquoi la communauté internationale semble incapable de conclure un accord contraignant durant le sommet qui se déroule actuellement à Genève. Dans les deux cas, les mêmes ingrédients sont réunis : de puissants lobbies industriels, des obstacles juridiques et des politiciens qui sèment le doute et la colère. À la Chambre des communes, M. Tucker a prétendu que cette interdiction de la paille en plastique n'avait rien à voir avec l'environnement. Le véritable enjeu, soutenait-il, était la volonté du gouvernement de contrôler nos vies. En effet, il s'agit d'une intrusion de l'État dans les stratégies d'hydratation. Mais ce n'est pas pour le plaisir de vous emmerder, ni pour échafauder un plan pernicieux de 97 étapes pour implanter un État totalitaire. La logique est plus simple. Si on n'empêche pas les gens de polluer, ils vont, eh bien, polluer, ce qui nuit à la santé collective. Peut-être est-ce un ressac de la pandémie où les citoyens ont trop subi les ordres de l'État. Peut-être est-ce un mélange de lassitude et de résignation face au dérèglement du climat et du monde vivant. Et au moins un peu, un sursaut d'égoïsme ou du moins un refus de faire notre part quand notre voisin américain ne fait pas la sienne. Peu importe, le résultat est le même. Pour le plastique, comme pour les autres enjeux environnementaux, le débat se perd et s'enfonce dans les symboles. En 2024, la députée conservatrice, Leanne Rood, identifiait un scandale tout chaud. Le couvercle en fibre de Tim Hortons. L'Ontarienne voulait orchestrer une campagne de boycottage contre cette décision woke, rapportait alors la CBC dans un dossier sur le sujet. Aparté. À noter cette nouvelle définition du terme woke. Idéologie dangereuse qui consiste notamment à ne pas vouloir de microplastiques dans son cerveau ou son système respiratoire. En avril 2025, le chef conservateur, Pierre Poilievre, a accusé les libéraux d'hypocrisie. Ce n'est pas de la science, c'est du symbolisme, tenait-il. Selon lui, le plan libéral ne réduira pas la pollution. M. Poilièvre a rappelé que les pailles en papier contiennent elles aussi des contaminants. Il a ajouté que le Canada compte pour une portion minime de la pollution mondiale. Il mettait en garde contre des pertes d'emplois, du gaspillage causé par une conservation déficiente des aliments mal emballés et une hausse du coût des denrées. La priorité, selon lui, serait de recycler davantage le plastique. Or, même une amélioration radicale du taux de recyclage ne suffirait pas à endiguer la pollution. Et si chacun attend que les autres fassent leur part, personne ne bougera. Enfin, des alliés font déjà des efforts, comme la France et plusieurs autres pays européens, sans oublier des États américains, New York, Californie, Hawaï. Même si le recyclage est important, il ne suffit pas. Les scientifiques qui consacrent leur vie à ce sujet répètent qu'il faudrait également produire moins et produire mieux. Le lobby pétrochimique se bat contre de telles contraintes. Il tente d'empêcher la signature à Genève d'un premier traité international sur le plastique. L'Iran, la Russie, l'Arabie saoudite et les États-Unis l'assistent dans cette croisade. Chez nous, les grandes sociétés pétrochimiques ont contesté en Cour fédérale l'interdiction du plastique à usage unique. L'Alberta les soutenait. Elles ont gagné. La preuve scientifique a été jugée trop faible pour inscrire tous les plastiques à la liste des substances toxiques. La mesure fédérale a aussi empiété sur les compétences provinciales, a tranché la magistrate. Le plan peut sans doute être amélioré ou ajusté, mais cette offensive sert un autre but, l'abolir. Le fédéral a porté la cause en appel. La Colombie-Britannique l'appuie. Pas au nom du wokisme, du totalitarisme ou de la bien-pensance. Juste parce que des gens croient que le progrès peut exister dans une version moins polluante. Mais ce gros bon sens est difficile à vendre quand le débat devient aussi toxique. Les pays pétroliers bloquent les négociations sur la pollution plastique. À Genève, les négociations en vue d'établir le premier traité international contre la pollution plastique sont bloquées par des pays pétroliers, notamment l'Arabie saoudite, la Russie et l'Iran, qui refusent toute contrainte sur la production de plastique vierge, selon plusieurs sources impliquées dans les tractations. Ces pays souhaitent que le traité ne couvre pas l'origine pétrolière du plastique pour se concentrer uniquement sur l'aval lorsqu'il est devenu un déchet, alors que la résolution initiale pour lancer les négociations porte sur tout le cycle de vie du plastique. Ce projet de texte, juridiquement contraignant, est destiné à permettre de réguler au niveau mondial la production, la consommation et la fin de vie du plastique, alors que chaque année, 22 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetées dans l'environnement. Au total, 184 pays participent à ce nouveau tour de négociations onusiennes après l'échec de la dernière session, fin 2024, à Busan, en Corée du Sud. C'était un débat toxique, un texte de Paul Journet, paru le 8 août 2025 dans la presse.
La science qui traque les malfaiteurs. Un texte de Mary Tyson, paru le 26 juillet 2025 dans la presse. On soupçonne un acte illégal. Mais voilà, il faut le prouver. Est-ce que ce sont bien les restes de la victime qu'on a découverts dans le congélateur du suspect? le laboratoire d'expertise biolégale analysera le tout en utilisant les techniques les plus récentes et notamment des outils génétiques. Citation. Notre rôle, c'est de prendre des pièces à conviction, de donner aux agents un rapport scientifique pour les aider à monter un dossier le plus solide possible, déclare la biologiste Cecilia Hernandez. Si nécessaire, nous serons appelés comme témoins experts à la Cour. Fin de citation. Quelques petites précisions. La victime est un chevreuil. Le suspect est soupçonné de braconnage. On parle d'agent de protection de la faune. Et le laboratoire d'expertise biolégale est lié au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Citation. Nous offrons un service de conseil et d'analyse scientifique, surtout aux agents de la faune, pour les aider dans leurs enquêtes sur la réglementation liée à la chasse, à la pêche et au bien-être animal, précise Cecilia Hernandez. C'est un peu le pendant chasse et pêche du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de la police. Fin de citation. Cette année, le laboratoire d'expertise biolégale fête ses 60 ans. Citation. On avait demandé à un vétérinaire de créer ce laboratoire en 1965, note Mme Hernandez. Ça s'appelait alors le laboratoire d'analyse des viandes parce qu'au départ, il s'agissait davantage d'identifier l'espèce à partir de la viande. On faisait aussi de premières expertises à partir du poil d'animal. Fin de citation. Les technologies ont évolué, mais le travail de base demeure le même. Il s'agit d'aider les agents de la faune à éclaircir les circonstances d'un acte illégal, du braconnage par exemple, d'en trouver l'auteur et d'établir une preuve scientifique pour leur permettre de faire avancer leurs enquêtes. Chasse et pêche. À l'automne, les requêtes sont surtout liées à la chasse. Citation. Ces poils appartiennent-ils à un mâle ou à une femelle? Est-ce qu'on peut faire un lien entre le poil trouvé sur une scène d'abattage et la viande saisie dans un congélateur? Cette tache de sang appartient à quelle espèce animale? Fin de citation. Énumère Cecilia Hernandez. L'été, les requêtes touchent davantage la pêche. Citation. On peut nous demander d'identifier des espèces à partir de filets qui n'ont pas de peau, de dénombrer le nombre de poissons parmi tous ces filets. On peut aussi nous demander, mais moins souvent, si le poisson a été capturé grâce à un hameçon ou un filet. Fin de citation. La vétérinaire du laboratoire peut être appelée à déterminer la cause de la mort d'un animal. Elle peut analyser la carcasse, chercher des projectiles. Citation. Elle fait aussi des dossiers de garde en captivité, dans des zoos ou des refuges animaliers, indique Mme Hernandez. Est-ce que l'enclos est sécuritaire pour le public? Pour l'animal? Est-ce que les besoins en nourriture de l'animal sont comblés? Fin de citation. Qui a mordu? Et puis, parfois, un autre genre de dossier rebondit au laboratoire d'expertise biolégale. Une personne se fait mordre par un coyote ou un ours. Comment s'assurer de mettre la main sur le vrai coupable? C'est notamment arrivé en 2019 dans un parc du Bas-Saint-Laurent. Lors d'une activité de camping, un enfant s'est fait mordre par un coyote. Les agents de la faune ont capturé un coyote à proximité et les scientifiques du laboratoire ont été en mesure de confirmer qu'il s'agissait du même animal en comparant son ADN à celui qu'ils avaient récupéré sur le vêtement de l'enfant. Les agents ont ainsi pu rassurer les autres vacanciers, le coupable était hors d'état de nuire. Citation. Nous avons fait ce genre d'analyse pour la première fois en 2014, indique Cecilia Hernandez. Depuis 2018, on a eu à peu près une dizaine de cas qui impliquaient majoritairement des coyotes et des ours. Fin de citation. La plupart du temps, ces événements surviennent dans des campings ou auprès de joggeurs. Citation. C'est lié à la cohabitation avec la faune sauvage, dit Mme Hernandez. C'est important pour nous. C'est une question de sécurité du public. Il ne faut pas qu'il y ait de récidive. Fin de citation. Le laboratoire d'expertise biolégale ne comprend qu'une toute petite équipe. Deux biologistes, une technicienne de laboratoire et une vétérinaire à temps partiel. Elles sont pratiquement toutes issues du laboratoire de feu Louis Bernatchez à l'Université Laval qui utilisait la génétique pour étudier l'écologie des poissons. Citation. « C'est après avoir suivi son cours au bac que j'ai eu la piqûre », déclare Cecilia Hernandez. « Le fait d'utiliser des outils génétiques pour répondre à des questions, c'est un peu ça qui m'a allumée. » Fin de citation. Et puis, il y a l'amour de la nature, de la faune. Citation. « L'idée, c'est de faire perdurer la ressource pour tous, pour les prochaines générations, pour les pêcheurs et les chasseurs, mais aussi pour les amateurs de plein air. On aime tous se promener en forêt et voir un cerf ou un orignal. » Fin de citation. C'était « La science qui traque les malfaiteurs », un texte de Mary Tyson, paru le 26 juillet 2025 dans La Presse.
Peut-on retrouver le Nord? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Chantal Allen, une lectrice, demande « Peut-on améliorer son sens de l'orientation? » Probablement, mais les études en situation réelle sont difficiles à faire et il n'est pas certain que les études en laboratoire reflètent ce qui se passe dans la vraie vie. Il n'y a pas eu beaucoup d'expériences réelles sur la possibilité d'améliorer la navigation dans de nouveaux environnements. Par exemple, une ville qu'on ne connaît que par une carte, explique l'une des sommités de la psychologie de l'orientation, Nora Newcomb, de l'Université Temple à Philadelphie. Mais il y a eu plusieurs expériences en laboratoire qui montre qu'on peut entraîner diverses capacités d'orientation dans l'espace. Ces capacités, normalement, aident à mieux naviguer dans un environnement nouveau. Les études les plus poussées sur le sujet ont été menées auprès de chauffeurs de taxi londoniens par une psychologue du Collège universitaire de Londres. Elle a montré que leur capacité d'orientation n'était pas seulement dû à une bonne mémoire, mais aussi à des capacités neurologiques qu'on peut améliorer avec de l'entraînement, note Mme Newcomb. D'autres études ont montré que suivre la navigation étape par étape des GPS, plutôt que de les utiliser pour comprendre un trajet dans son ensemble, est néfaste pour les capacités de navigation, dit une autre sommité dans le domaine de l'orientation. Mary Hegarty, de l'Université de Californie à Santa Barbara, souligne que des études ont montré que la navigation, étape par étape, n'enrichit pas les régions du cerveau responsables des capacités d'orientation, mais plutôt celles qui sont impliquées dans les automatismes. « Je crois, dit-elle, que la capacité de navigation doit être utilisée constamment pour être maintenue ou améliorée. Si on ne l'utilise pas, on la perd. » Elle cite le dicton anglais « use it or lose it » que certains traduisent par « on s'en sert ou on le perd ». L'une des manières permettant probablement d'améliorer sa capacité de navigation géographique est de s'imaginer des itinéraires, selon la psychologue californienne. Il n'y a jamais eu d'études spécifiquement sur ce type d'entraînement mental, mais on sait que pour d'autres capacités intellectuelles, par exemple la musique, si on fait de l'entraînement mental, on s'améliore dans la vraie vie. Jeux vidéo. L'une des activités qui semble augmenter les capacités de navigation est le jeu vidéo. Les jeux vidéo améliorent la capacité de rotation mentale, de voir le même objet selon différentes orientations, dit Mme Hegarty. Ce type de capacité spatiale améliore la navigation géographique. L'un de mes étudiants a fait une expérience où il montre que jouer à Super Mario modifie l'hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la navigation. Est-ce que la capacité de lire des cartes géographiques est liée à la navigation? À l'heure du GPS, les cartes semblent pour bien des gens antédiluviennes. Les cartes sont utilisées pour s'orienter dans l'espace depuis des millénaires, dit Mme Hegarty. Alors, je ne crois pas qu'elles soient inutiles. Si on montre à un rat une image d'un labyrinthe vu du dessus, et qu'ensuite on le place dans le labyrinthe, il va trouver plus rapidement la sortie. Mauvaise nouvelle, par contre, les gens qui ont une meilleure navigation géographique ne seront pas nécessairement meilleurs pour retrouver leur clé dans la maison. Retrouver un objet est une question de mémoire, pas de navigation, tranche la psychologue Nora Newcomb. En savoir plus? 20% proportion des automobilistes américains qui utilisent un GPS chaque jour. Source: United Tires. C'était « Peut-on retrouver le Nord? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.
Calamine avec beaucoup de fierté. Une entrevue réalisée par Andrea Robert-Lezac, parue le 3 août 2025 dans le magazine Fugue. Faire du rap engagé n'est pas de tout repos, mais c'est ce que propose Calamine depuis 2021. Malgré les responsabilités que cette prise de parole implique, l'artiste queer croit fermement qu'il est sain de débattre d'idées par l'art et la culture. Fugue l'a rencontré après sa prestation au plus récent Franco de Montréal. Tu as récemment sorti un nouveau single qui s'appelle Golden, et il y a aussi un album l'année dernière, Décroissance personnelle. Comment décrirais-tu ce projet à quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui veut te découvrir? Je dirais que c'est de la musique quand même profondément militante, mais sans être trop lourde. J'essaie de balancer ça, que ce soit de la musique qui reste festive, qui est aussi groovy. C'est assez diversifié musicalement. Ça va un peu dans le R&B, dans le vieux boom-bap. J'aime ça jouer avec tout ça. Mais grosso modo, c'est une trame assez militante, queer, puis orientée vers la justice sociale. Comment s'est passée ta rencontre avec le rap? Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre le micro, de raconter des choses? J'ai toujours joué de la musique, j'ai toujours composé. J'ai toujours trippé sur le rap, mais c'était comme une espèce de rêve secret dans lequel j'avais de la misère à me projeter à l'époque. Il n'y avait pas des tonnes de rappeuses nécessairement. Je me sentais un peu imposteur. C'est quand je suis arrivé à Montréal que j'ai rencontré Kate Magané, dans le fond mon DJ, mais qui était à l'époque mon coloc. Lui, il faisait des beats avec ses amis, il enregistrait des tunes un peu à la blague. Ses amis réparaient, mais ce n'étaient pas des rappeurs sérieux, ils ne se prenaient pas au sérieux. On dirait que le fait de commencer sans me prendre trop au sérieux, je me suis dit « je pourrais essayer ». Mais dans le fond de ma tête, je me disais « je pense que je veux faire ça ». C'est lui qui m'a dit « t'es bonne, on pourrait faire ça, faire une tape de rap ». J'étais comme « ça me tente ». J'avais vraiment envie de me consacrer à ça. Tu fais souvent des clins d'œil à la culture québécoise dans tes textes, entre autres à Hochelaga. C'est important pour toi d'inscrire le Québec dans tes textes? Vraiment. Moi, je viens d'un background en arts visuels. J'ai étudié là-dedans. Je voulais être peintre avant. Je pense que j'ai un peu la même approche dans mes textes que j'avais en peinture. C'est-à-dire que j'écris beaucoup ce que je vois. J'invente rien. Je parle de ce que j'observe dans la société, dans mon quartier, dans les milieux que je fréquente, ce que j'entends à la radio, ce qui se passe dans le monde. Je fais juste processer ça. C'est ma manière de ne pas virer folle avec tout ce qui se passe. Et nécessairement, ça devient central dans mon écriture. J'ai vu que tu avais collaboré avec plusieurs artistes comme Sensei H, Naomi, Sloan Lucas. Comment ça s'est passé, ces collaborations-là? Super bien. Moi, j'ai toujours envie, le plus possible, de collaborer avec d'autres rappeuses, de créer une sororité dans le hip-hop. Je pense qu'on n'est pas des tonnes et je trouve ça important de se montrer comme communauté. C'est vraiment dans la culture du hip-hop de faire des featurings, des collaborations. Il y a souvent 3-4 rappeurs sur une track. Mais au Québec, ce n'est pas si courant. Pour moi, c'était un défi de faire la toune avec Cynthia H. Et selon Lucas, j'étais comme « wow ». Une toune sans refrain, back à back, 3 couplets de suite, tac, 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 du rap. Le flow, là. Je me suis fait plaisir. Je trouve aussi qu'au Québec, on a des voix de R&B incroyables. Un gros problème qu'on a ici, c'est le manque de pont entre la scène franco et la scène anglo. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir quand on arrive à réunir ces univers-là. Il y a Shay Frank, qui est une super chanteuse de R&B. Maggie Merlin aussi, qui fait... parfait pour refaire ma playlist sur Spotify. Je ne saurais même pas décrire son style musical, mais elle est trop talentueuse. C'est des collabs que j'ai vraiment aimé faire. Moi, je n'ai pas une voix de diva, puis j'admire les personnes qui ont une voix forte. Collaborer avec des gens qui ont une voix exceptionnelle, c'est toujours un plaisir. Ça se mélange bien aussi quand les voix sont différentes. Par exemple, Louane qui avait fait un featuring avec Grand Corps Malade. C'était 2 styles complètement différents, mais ça marchait super bien. La musique, c'est aussi ça, de l'innovation. Créer, c'est comme on a tous une palette de couleurs, puis là, on mélange les sauces. On peut faire des trucs complètement nouveaux. Y a-t-il des artistes avec qui tu aimerais collaborer? Au Québec, aux États-Unis, en France? Des tonnes. Aux États-Unis, il y a tellement de rappeuses badass. Mais c'est comme des rêves inatteignables. On dirait que je n'ose pas rêver trop grand pour ne pas être déçu. En France, il y a aussi des artistes trop cool. J'adore Eyasha Yasuke, la rappeuse suisse. Catégorique aussi, qui est trop haute. Lala S.E. en France, elle est vraiment cool. Au Québec, on dirait que je suis gêné de tendre la perche, mais je rêve d'avoir ma toune avec Saramé, évidemment. Et soyons fous, j'aimerais bien une toune avec Ariane Moffat. Ce serait quand même un rêve, franchement. Voilà, c'est dit. Ariane et Saramé, vous avez bien reçu le message? Comment vis-tu le fait d'être perçue comme une figure queer publique? C'est une pression, une fierté, un mélange des deux? Pour moi, c'est une fierté, presque un mandat. J'ai beaucoup souffert, jeune, de ne pas voir de modèle, de ne pas voir de personne androgyne ou non-binaire. Ce n'était pas encore très visible ni théorisé. J'en ai vraiment souffert dans mon adolescence. Aujourd'hui, être un peu une porte-parole de ma communauté, sans me donner ce titre-là, mais pouvoir parler de ma communauté et à ma communauté, c'est important. Il y a beaucoup de monde queer dans mes shows, et de pouvoir se retrouver ensemble, c'est précieux. J'essaie toujours de garder ça en tête dans ma musique. À chaque album, je me dis, j'ai envie de visibiliser ce qui se passe chez nous. C'est quoi nos enjeux? On parle souvent de nous dans l'espace public, sans nous. Des rapports, des chroniques, des médias de droite qui nous décrivent comme des extrémistes, qui disent que la cause trans va trop loin. On a besoin de reprendre le micro, de parler pour nous-mêmes. Exactement. C'est une responsabilité que je prends avec sérieux. Et tu fais bien, parce qu'on en a besoin avec tout ce qui se passe. Est-ce que tu trouves que la scène musicale québécoise est plus inclusive aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est un peu un cercle vicieux. Tant qu'il n'y a pas de figure queer visible, les gens ne se projettent pas à en devenir. Il faut briser ça. Je pense que la scène est prête à accueillir des personnes queer, mais qu'on s'auto-sabote parfois. Moi, ça m'a pris du temps à me lancer, parce que je doutais. On se sent imposteur, on a de la misère à se projeter. C'est difficile de prendre sa place. Mais honnêtement, je suis agréablement surprise de voir à quel point on peut être bien reçu. Mon équipe, on est des personnes queer, des personnes trans, et on est super bien accueillis partout où on va. Même dans des régions où on se demande si ça va passer. Franchement, les gens sont là, ils sont ouverts. Faut pas se laisser miner par les populistes de droite. Les gens, ils sont prêts, ils sont accueillants. Pour les jeunes qui t'écoutent, c'est quoi le message que tu aimerais qu'ils retiennent de ton parcours? Quel conseil tu leur donnerais s'ils veulent se lancer, peu importe le domaine? Je pense que ça prend du courage. Comme je disais tantôt, on a tous et toutes un petit syndrome de l'imposteur. Moi, ce qui m'a le plus freiné, c'est moi-même, ma peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est de faire les choses malgré la peur. Je leur dirais d'être courageux et courageuse, de foncer. Personne ne peut le faire à notre place. Il faut prendre l'espace, prendre le micro, parler pour notre communauté, se lancer, se solidariser, s'entourer des bonnes personnes. Ensemble, on est plus fort, plus forte. Faut faire acte de courage, puis prendre la place qui nous revient. Dernière question. À part ta participation à Fierté Montréal dans le cadre de IMIX, c'est quoi tes prochains projets? Ou c'est secret? Je travaille sur le prochain album. Il est pas mal composé, écrit, presque dans la boîte. On va mixer ça à l'automne, enregistrer les collabs cet hiver, puis on vise une sortie au printemps prochain. Le prochain album va s'appeler « Rétrograde ». C'est moi qui vais avoir composé tous les beats. C'est un gros morceau. Je me suis engagé, mais ça vient du cœur. J'ai vraiment hâte que ça sorte. C'était « Calamine avec beaucoup de fierté ». Une entrevue réalisée par Andrea Robert-Lezac, parue le 3 août 2025 dans le magazine Fugue.